En vérité, il faudrait ne pas parler du pouvoir des médias parce qu'il n'y a pas un pouvoir, mais plusieurs pouvoirs. Des pouvoirs multiples dont les effets varient selon les médias et leur public. Quels sont ces pouvoirs? Évidemment, je ne vais pas en dresser une liste exhaustive et même très organisée, je voudrais simplement mentionner quelques-uns d'entre eux. Les médias, d'abord, exercent un pouvoir d'incitation et d'intimidation. Pas plus, pas moins. Comment se manifeste ce pouvoir d'incitation et d'intimidation? Je vais en citer deux exemples. D'abord, un pouvoir d'incitation dont le revers est un pouvoir d'intimidation, qui est d'incitation à croire dans la puissance des médias. Et la croyance dans la puissance ou la toute-puissance des médias est évidemment constitutive de leur puissance. Ils seraient beaucoup moins puissants en direction d'un certain nombre de publics si ceux qui contestent le pouvoir des médias ne commençaient par croire, ne commençaient pas par attribuer aux médias plus de pouvoir qu'ils en ont. Je précise, si vous pensez que les mouvements contestataires de ce que j'appellerais ici, pour ne choquer personne, d'une gauche de gauche, pas de la gauche de la gauche, donc d'une gauche de gauche, comme ça tout le monde peut essayer de s'y retrouver, hein, que la puissance de ces mouvements contestataires dépend beaucoup, voire même essentiellement, de leur présence médiatique, évidemment, vous avez déjà concédé aux médias une puissance qu'ils n'auraient pas si vous n'étiez pas aussi crédule. Certes, quand vous êtes en campagne électorale, comme c'est le cas actuellement si j'ai bien suivi, et que vous présentez des candidats, il est quand même assez difficile de mener campagne sans être présent dans les médias. Donc ce que je vais pour dire n'a pas pour objectif de préconiser un impossible et même improbable boycott. C'est de dire simplement que votre audience dans les médias ne peut pas être dissociée de celle que vous forgez jour après jour par d'autres moyens d'action que la médiatisation. Plus encore, si vous croyez à la toute-puissance des médias, vous laissez aux médias ou à certains d'entre eux un pouvoir d'ingérence dans la vie démocratique des associations, des syndicats et en l'occurrence des partis politiques, qui est un pouvoir d'ingérence absolument disproportionné, qui n'a pas d'équivalent dans le pouvoir d'ingérence qu'auraient les citoyens dans les comités de rédaction des principales chaînes de télévision. Vous voyez, transparence d'un côté, opacité de l'autre. Transparence illusoire d'un côté, opacité sans faille de l'autre. Et évidemment, le corrélatif de ce pouvoir d'incitation, c'est un pouvoir d'intimidation. Comment expliquer en effet que dans cette gauche de gauche, ou parmi ces mouvements contestataires, qu'ils soient associatifs, syndicaux ou politiques, il s'en trouve si peu qui contestent les médias dans les médias. Sauf quand une question est déplacée, qu'un comportement d'un journaliste est désagréable, mais de temps en temps de dire plus franchement, plus nettement, à la 12e question que vous me posez pour savoir ce que je pense des sondages d'opinion, je quitte le studio. Ce qui ferait que, très souvent, on verrait quitter les studios de Jean-Michel Apathy par un certain nombre de ses invités. Que à la 10e question pour savoir quel va être votre positionnement tactique par rapport à Monsieur Chose ou Madame Machin, vous disiez, écoutez, je suis en campagne électorale pour les européennes, je voudrais parler un peu de l'Europe. Que quand des journalistes, comme c'est le cas actuellement, disent la campagne ne démarre pas, l'UMP, le PS planquent les questions européennes. On pourrait plus souvent dire que ils le font, mais avec les concours des médias qui passent leur temps à commenter les sondages d'intention de vote pour l'élection européenne, et même déjà pour l'élection présidentielle de 2012, qui passent leur temps à commenter l'absence de campagne, sans faire le minimum d'informations, ou sans faire autant qu'on pourrait le souhaiter, parce qu'on trouve des choses de ci, de là, le minimum d'informations, de travail d'information sur ce qu'a été le mandat les résultats du Parlement européen, puisque c'est de lui qu'il s'agit, les citoyens puissent se tirer, avec le maximum d'éléments d'information en main, le bilan qu'ils souhaitent tirer, et dire, oui, tel parti politique a été formidable au Parlement européen, et le courant politique qu'il représente mérite d'être soutenu. Au lieu de quoi nous avons une campagne électorale de l'UMP qui est entièrement centrée sur le rôle joué par Nicolas Sarkozy, mais ce n'est pas l'objet de l'élection du Parlement européen, de savoir si le président de la République française a bien ou mal fait son job. Ce pouvoir d'intimidation a comme conséquence qui s'alimente de la crédulité ou de certaines formes de crédulité dans la toute-puissance des médias, et là vous comprenez que je ne suis pas tiré une balle dans le pied, évidemment, rend très difficile la contestation des médias. Vous savez, la complaisance est un TGV dans lequel on monte, mais qu'on n'est pas sûr de pouvoir arrêter en tirant à temps le signal d'alarme. Certaines formes de complaisance à l'égard des médias, non de compromis, mais de compromission, qu'il est parfois difficile de distinguer du compromis, j'en conviens, ont eu comme conséquence qu'un certain nombre de forces sont totalement désarmées dans la période précédente en ce qui concerne leur capacité de critique des médias. Un exemple. Qui, parmi les forces politiques, après l'initiative, je ne parle pas d'Acrimel, hein, nous ne sommes pas un parti politique, et nous n'étions pas en campagne pour la présidentielle, mais qui, parmi les représentants des forces politiques, pour des raisons sans doute qui mêlaient à la fois des questions de positionnement tactique, mais aussi pourquoi le nier, de convictions politiques, qui a entrepris de critiquer les médias dans la façon dont ils menaient la campagne ou intervenaient dans la campagne présidentielle? François Bayrou. Qui, malgré toute la sympathie qu'il inspire, n'a toujours pas pris sa carte d'Acrimède. Ce pouvoir d'incitation et d'intimidation, je voudrais en donner un deuxième exemple. Il règne dans les médias une sondomanie, ou même une sondagite, qui est une forme de maladie de l'information particulièrement inquiétante. Une pandémie. Puisque le terme est en vogue en ce moment pour une maladie effective, je risque le terme. Une pandémie de sondages, surtout en période électorale. Or, des sondages, il y en a de toutes sortes. Il y a des sondages de comportement qui vont depuis « que faites-vous en matière de pratiques sexuelles ?»« à quoi occupez-vous vos vacances si vous en prenez ?» Ces sondages de comportement, pour peu qu'ils respectent un certain nombre de règles techniques, sont non seulement fiables, mais utiles. Aucune sociologie aujourd'hui ne serait possible qui ne s'appuie, le cas échéant, sur des sondages de comportement. Il existe des sondages d'opinion. Je n'en dirai pas grand-chose, sinon que personne n'a réfuté jusqu'à ce jour ce que Pierre Bourdieu disait à leur propos. Non pas que l'opinion en général n'existe pas, mais que l'opinion telle que les sondages prétendent la sonder n'existe pas. Il y avait un raccourci polémique dans son titre. C'est-à-dire qu'une opinion... L'opinion sondée est en réalité une opinion qui est construite par les sondages. Elle n'existe pas en dehors d'eux. Par conséquent, c'est un ersatz. Dans cet ersatz, on peut trouver des indications vagues, incertaines et fluctuantes qui ont une valeur de connaissance relativement faible. Et puis alors là, vous avez les sondages d'intention. Ah, les sondages d'intention, c'est quelque chose. Quand il s'agit de sondages d'intention d'achat, on peut comprendre que des entreprises fassent, commandites, des sondages d'intention d'achat. Ça leur permet de développer certaines formes d'études de marché et d'essayer de cibler leur clientèle. Bon. Et puis vous avez une variante du sondage d'intention, qui n'est pas à proprement parler une variante du sondage d'intention d'achat, qui est le sondage d'intention de vote. Eh bien, il faut le dire, le sondage d'intention de vote, sauf grave erreur technique, est fiable 48 heures avant l'élection. Il ne l'est certainement pas plusieurs mois à l'avance. Quand on ne connaît pas les candidats, quand la campagne n'a pas commencé, quand les citoyens ne sont préoccupés par tout, sauf par les échéances électorales, ce qu'on nous présente comme des photographies sont des photographies qu'elles sont tellement floues que personne, mais personne, s'il en tirait de ce genre, n'accepterait de les mettre sur son bureau. Et les prétendues fluctuations des intentions de vote, ça monte, ça grimpe, le PS descend, Bayrou progresse, Besancenot perd 2 points, Arlette Laguiller en prend 1, etc. Ce sont purement et simplement des courbes de fluctuation des sondages eux-mêmes. Mais 48 heures avant, et surtout le jour même, mais là... Quand les citoyens ont à peu près faire leur choix, sauf ceux qui jouent ça à pile ou face devant les urnes, eh bien, c'est globalement fiable. Et les sondages sortis des urnes sont souvent des sondages très intéressants, puisqu'en réalité, ce sont des sondages de comportement, assortis de quelques éléments de questions sur les opinions, pourquoi vous avez voté machin et plutôt que chose, etc., etc. Ce pouvoir d'incitation, c'est quoi? Pas plus, pas moins d'incitation. C'est un pouvoir d'incitation des formations politiques à choisir leurs candidats en fonction des sondages d'intention de vote. Je ne dis pas que le Parti socialiste a choisi Ségolène Royal pour le représenter uniquement sur la base des sondages d'intention de vote. Il est possible, il est même probable, que nombre de militants de son parti ont étudié de près la différence de programme qu'il y avait entre les propositions de M. Strauss-Kahn, de M. Fabius et de Mme Ségolène Royal. Mais enfin, quand, 8 mois avant l'élection, confirmé par tous les sondages d'intention de vote jusqu'à, je crois, 3 mois, hein, date à laquelle a lieu la primaire au sein du Parti socialiste. Tous les sondages d'intention de vote disent que le candidat du Parti socialiste le mieux placé pour l'emporter le cas échéant au second tour contre Nicolas Sarkozy, c'est Madame Ségolène Royal. Il faut être un militant du Parti socialiste qui a fait une solide critique des médias et des sondages pour ne pas être tenté de voter pour la candidate qui est la mieux placée, comme on dit dans cette course de petits chevaux, dans les sondages. Or, petit rappel, hein, jusqu'à très peu de temps avant l'élection présidentielle, M. Balladur, c'est-à-dire avant même qu'elle ne commence la campagne électorale, était gagnant dans tous les sondages d'intention de vote. Tous. Et puis soudain, Jacques Chirac, revenu de Corrèze, a commencé sa campagne et... La campagne électorale se développant, les partisans des formations de droite ont commencé à dire, ou à se dire, Balladur, ça ne compte pas. Mais quand la campagne avait commencé, quand les candidats potentiels étaient connus, puisque M. Balladur et M. Chirac s'étaient effectivement déclarés, ce que Chirac a fait au dernier moment, plus tard, quand les adversaires étaient connus, quand les thèmes de la campagne commençaient à prendre forme, avant, les sondages d'intention de vote avaient une fonction d'incitation des formations politiques à se prononcer non pas sur les enjeux, mais sur les jeux politiciens. Ça, c'est un pouvoir des médias tout à fait considérable. Et c'est un pouvoir d'intimidation du même coup de tous ceux qui voudraient se déterminer démocratiquement au sein de leur formation politique en fonction non pas des éventualités, mais des seules certitudes que l'on peut avoir quand on est adhérent d'un parti, c'est-à-dire quel est le projet, quel est le programme qui me semble le plus juste. Ça, on peut être à peu près certain de ses convictions, à défaut d'être certain des résultats électoraux. Deuxième type de pouvoir que je voudrais mentionner, c'est un pouvoir de consécration et de stigmatisation.